Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans la France insolite, mal connue, parfois oubliée, parfois à l'étroit. Voici comme chaque samedi sur Europe 1, 4 sites qui méritent votre visite. Alors dans l'ordre, un musée avec des œuvres dont les auteurs sont tous autodidactes. Ensuite, une abbaye royale du XIIe siècle qui abrite une tombe d'un acteur célèbre d'Hollywood, vous avez bien entendu. Et puis un moulin où, comme au XVIIe siècle, on fabrique un papier de luxe. Et enfin, une expérience en pleine nature, dans les pas de bergers de haute montagne. Ils vont vous accompagner. Et avec Gavin Clemente Ruiz, ambassadeur du guide du routard, s'il vous plaît, qui est présent sur ce studio, nous allons vous dire à quoi tout cela ressemble. Pour commencer, on va dans Lyon, mais où précisément, Gavin, bonjour.
Bonjour William, et bien nous allons à Dissy. C'est entre Montargis et Auxerre, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est là que l'on trouve un endroit extravagant, complètement insolite, comme on les aime bien dans Samedi en France, et ça s'appelle la fabuloserie.
Alors, fabuloserie, ça méritera des explications. Vous connaissez la blague de Jamel Debbouze sur Dissy, quand on lui dit « Vous êtes né où ?» et alors il disait « Attrape », alors il dit « Je suis Dissy, je suis un Nicicien. »
Je suis un Nicicien. Ah, il est déjà en forme, hein, notre William, là, ce week-end.
Alors, fabuloserie, fabuloserie, ça existe ce mot-là, d'ailleurs ?
Bah non, c'est pour ça que je vous invite à aller voir cet endroit, c'est un lieu vraiment particulier, c'est pas une maison, c'est pas un musée, c'est un maison-musée, tout simplement, où sont exposées des centaines d'œuvres d'art à l'intérieur, comme à l'extérieur, dans le jardin.
Mais pourquoi c'est fabuleux ?
Bah parce que toutes les œuvres qui s'y trouvent sont réalisées par des autodidactes.
Donc, il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour être exposé, on est d'accord. Donc, vous et moi, on peut y aller.
Exactement.
On peut proposer nos œuvres.
Les petits dessins que vous faites là sur votre cahier, là, vous pouvez les exposer.
Y compris les moches.
Surtout les moches. Pas de référence artistique, pas de matériaux classiques. On passe de la salle dite des turbulents, comme
qu'est-ce
on l'appelle.
Qu'est-ce que c'est, les turbulents?
Bah, vous verrez. Et en gris, avec des grillages, du papier mâché.
Ah oui, d'accord.
Il y a aussi des statues de Camille Vidal qui sont en béton peint grandeur nature, avec des statues à l'effigie de Clémenceau, de Jane Mansfield.
Et c'est ressemblant? Oui.
Bah, pas mal. Franchement.
Ah non, mais c'est plus drôle si c'était pas.
Moi, j'ai hâte de voir celle de William Lémergie. Enfin,
ah bah
bon,
alors,
ça,
là,
c'est
oui,
une autre histoire.
Ça sera la pire.
Il y a même une. Oh non, arrêtez, William. Il y a même une sorte de manège extraordinaire réalisé par Pierre Avzard.
Alors,
c'est
qui
assez
est
touchant.
Pierre Avzard.
C'était un garçon vaché qui est né sourd-muet. Il a créé le petit manège de Petit Pierre avec une animation toutes les heures.
Alors, ça a l'air très, très éclectique ce que vous nous racontez là. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Sophie Bourbonnet, co-directrice de la fabuloserie. Bonjour Sophie.
Bonjour William.
Alors, parlez-nous de votre papa, c'est Alain, son prénom, qui a créé ce lieu. Mais racontez-moi dans quelles circonstances et puis dans quel but surtout.
C'est-à-dire que Alain Bourbonnet était architecte de renom, mais à un moment donné, il voit Jean Dubuffet qui lègue sa collection d'art brut à Lausanne en 1971.
Oui.
Et il se dit, mais c'est pas possible que ça n'existe plus en France, ce type d'art. Mmh. Donc, il rencontre Jean Dubuffet et il lui propose d'ouvrir une galerie qui sera l'atelier Jacob et qui va perdurer pendant 12 ans, de 72 à 82. Jean Dubuffet est ravi, il prête des œuvres d'Aloïs Corbas, qui est vraiment un ténor de sa collection. Mais bon, à l'époque, l'art brut, c'est pas ce qu'il est maintenant. Il n'est pas reconnu, il n'y a pas de clients.
Oui. Ah, bah, c'est ça.
Oui. Ah, oui. Et voilà. Donc, il y a surtout des frais dans cette galerie. Mmh. Alors, un jour, au bout de 10 ans, notre père dit « Bon, ben, je vais rapatrier ma collection dans ma maison de campagne, dans Lyon.
Oui. »
Et cette collection est en fait des œuvres rendues de sa galerie. Chaque pièce de la maison musée, là, dont vous parliez tout à l'heure, a son nom, son ambiance particulière. On entre par le tunnel, on arrive dans le grenier blanc, le grenier noir. Enfin, c'est une sorte de parcours initiatique.
Mais c'est une grande surface ?
Ah oui, on a 900 mètres carrés d'exposition,
ah,
on a un millier d'œuvres. Et en fait, c'est cette osmose entre les œuvres et le lieu qui fait de la fabuloserie un lieu en fait unique. Tout le monde s'accorde à le dire et admire ça.
Eh ben, c'est bien pour ça que vous nous intéressez, évidemment. Est-ce que vous pourriez me dire, Sophie, quel genre d'œuvre habite cette fabuloserie ? D'ailleurs, j'ai là une phrase de Jean Dubuffet qui qualifiait cet endroit fait par votre père de puissante citadelle du marginal. Ah, c'est formidable de dire ça.
Oui, oui, d'un anti-beaubourg décentralisé.
Décentralisé, bien sûr. Alors, c'est quoi comme genre d'œuvre ?
Ben, son sont des œuvres qui sont faites par des hommes et des femmes, donc indemnes de culture artistique, hein, comme disait Jean Dubuffet. Lui, il est nommé les hommes du commun à l'ouvrage. C'est une belle dénomination, je trouve. Et c'est pour ça qu'à celui d'artiste, nous, on préfère employer le terme de créateur. Parce que ce sont vraiment des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont vraiment envie de créer, mais qui ne sont pas du tout artistes, qui ne font pas ça du tout dans un but d'être montrés.
Et ils connaissent pas les réseaux.
Pas du tout, ils emploient pas du tout, ils vont pas acheter des couleurs à côté, là, des toiles, des pinceaux. Donc ils emploient des matériaux, souvent en rapport avec leur métier d'ailleurs. Comme vous parliez de Camille Vidal, ben, il était maçon, donc il a fait des statues en
ciment.
En béton. Voilà, en ciment. Ratier était sabotier, il a fait des extraordinaires objets en bois. Okay. Ben, voilà, donc chacun fait. Donc ça induit une très grande diversité.
Est-ce que vous faites entrer régulièrement des pièces nouvelles dans la collection ou elle est telle qu'elle était à l'époque et ça bouge pas?
Non, ça, pas que ça bouge pas, ça bouge. Ça arrive qu'on fasse rentrer des pièces, bien sûr. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'on est le seul site de cette ampleur en France, d'art brut, d'art hors les normes. J'insisterai qu'il soit privé. Tous les autres appartiennent à des villes ou des départements.
Et oui, vous n'avez pas de subventions, vous.
Et alors, on a très peu de subventions, pas assez, évidemment. Donc, on a déjà une très lourde mission, qui est d'entretenir le site, de l'animer, de faire des expos temporaires. Et en fait, on est remercié vraiment par les visiteurs qui sont conscients de cela, parce qu'ils nous disent « Vous continuez l'action de vos parents, Alain et Caroline Bourbonnais ». Et ils se rendent bien compte que c'est difficile, on peut dire. Mais c'est en même temps formidable quand on voit leurs yeux pétiller à la fin des visites, plein d'étoiles.
Très bien.
Et ils nous remercient beaucoup de ce moment.
Ben, moi aussi. Merci. Merci beaucoup,
merci
Sophie.
Bien.
Bravo de vouloir pérenniser le travail de votre papa. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, Gavin, c'est à votre avis, il faut à peu près combien de temps pour tout voir? 900 mètres carrés, quand même.
C'est énorme. Hein, si vous prenez votre temps, William, et que vous regardez vraiment attentivement chaque œuvre, et elle le mérite, il vous faudra environ 2 heures,
ouais,
à peu près.
Plus de 2 heures. D'accord. Alors, il faut les encourager, parce que, comme elle vient de le dire, Sophie, c'est privé. Hein.
C'est exactement comme
donc
ça qu'il faut
c'est
qu'on peut...
Avec leur sou et le sou des tickets d'entrée, quoi.
Exactement. Donc, pour ça, bah, il faudrait y aller entre avril et juin, et de septembre à début novembre, le week-end, les jours fériés, de 14h à 19h. C'est 10 euros pour un adulte et 6 euros pour les 5-18 ans.
Ça va, c'est abordable. Hein. Si on veut dormir pas loin de la fabuloserie, on est dans Lyon, vous disiez, donc vous avez une adresse?
Ah bah oui. À Charny, au Clos de Charny, c'est à 6 km précisément de la fabuloserie. Là, vous avez des chambres d'hôtes qui sont vraiment très belles, en pleine campagne, c'est plein de charme, c'est dans un ancien prieuré, c'est zen, c'est bucolique, vous me direz des nouvelles aussi du petit déjeuner avec les crêpes et les cannelés, c'est délicieux. Bref, vous retrouverez toutes ces adresses, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux et sur
europe1.fr. Merci beaucoup.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
L'épisode numéro 2 aujourd'hui va nous conduire en Touraine, sur un site du patrimoine. Alors ça fait chic comme ça, il s'agit d'une magnifique abbaye du XIIe siècle, qui n'a pas la même notoriété que certaines autres. On va vous dire pourquoi, et on trouve ça bien dommage. Mais en plus, avec Gavin Clémenté-Ruiz, l'idole des routards, qui nous accompagne tous les samedis dans cette émission, on vous dira pour quelle autre raison cette abbaye-là nous a aussi intéressés. D'abord, ça se trouve où, Gavin?
Alors, je vous emmène au milieu des champs, à Luzet, c'est près de Chinon. On est en Indre-et-Loire et c'est en Touraine, vous l'avez dit.
Et c'est là que vous avez trouvé facilement ce site?
Facilement. J'avais un bon guide pour ça.
Ouais, mais non, je veux dire, par là, on n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle pas beaucoup, mais dans la région, ça commence un peu à se connaître quand même. C'est l'abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry. Elle a été classée en 44 monument historique. Et elle fait
En
44. Et elle fait partie de l'ordre de Tiron.
Qu'est-ce que c'est que l'ordre de Tiron?
Bah, on en saura un peu plus dans pas longtemps. Cette abbaye du XIIe siècle, pourquoi elle est intéressante à part son ordre? C'est parce qu'elle offre à la fois un style roman et gothique. Ça, c'est le côté architectural de la chose.
Ah bon, et donc ça se superpose?
Exactement.
D'accord. Et comment ça se présente à l'œil, comme ça, quand on arrive sur le site?
Alors, au niveau architectural, on retrouve la qualité locale. C'est la pierre blanche en tuffeau qui est caractéristique de la région. Il y a des fortifications aussi. Il y a un joli cloître assez romantique. Il y a la salle à écho. J'aime bien ça. C'est dans
la salle à écho.
Vous savez, vous pouvez chuchoter un endroit et on l'entend où que vous soyez dans la pièce.
Mais elle a été conçue pour ça?
Bah oui, c'est pour ça, c'est la chambre à écho, il y a comme ça. Imaginez aussi, il y a Jeanne d'Arc qui est passée là, il y a Charles VIII, il y a Anne de Bretagne.
Jeanne d'Arc, elle a dormi sur place.
Dormi, je ne sais pas, je crois pas. Elle est passée, ça c'est sûr.
Et comment on sait ça? Elle a laissé des petits cailloux.
Il y a des livres, il y a des grimoires presque qui recensent tous ces faits.
Charles combien vous avez dit?
Charles VIII.
VIII, qui d'autre?
Anne de Bretagne et Ronsard. Je ne sais pas s'il a composé un petit poème par ici.
Alors ça c'est la première raison pour laquelle vous ferez le voyage. J'ai des photos, vous trouvez ça sur le site. Mais l'autre raison qui nous paraît importante aussi, c'est que cette abbaye Saint-Michel-du-Bois-Aubry abrite une star, mais une star mondiale, quoi.
C'est là que ça m'intéresse encore un peu plus, et je savais que ça vous plairait aussi, William.
Ah oui.
C'est là que, dans le cimetière, se trouve une star d'Hollywood, vous l'avez dit. Une star d'Hollywood, hein.
Oui, une star d'Hollywood. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être cinéphile pour savoir qui c'est. C'est un homme, un acteur très connu.
Yul Brynner.
Le Yul Brynner des Sept Mercenaires.
Exactement.
C'est ça, c'est le show le plus célèbre d'Hollywood.
Complètement. Là, à l'abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry. C'est pour ça que ça nous intéressait.
Non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait là?
Pourquoi, comment?
Oui, pourquoi, comment il est arrivé dans ce lieu? Nous allons en savoir un peu plus parce que nous sommes en ligne avec le propriétaire de l'abbaye qui s'appelle Marc-Olivier Gribaumont. Bonjour, monsieur Gribaumont.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous. Comment les cendres de Yul Brynner, car il s'agit bien de ça, qui est mort en 85 à New York, sont arrivées dans le cimetière de l'abbaye?
Eh bien, figurez-vous que Yul Brynner fumait énormément. Il fumait 6 paquets par jour.
Là, il est mort de ça.
Voilà, il est mort d'un cancer. D'ailleurs, c'est assez connu parce qu'avant de mourir, il avait publié un film dénonçant les effets du tabac.
Oui.
Et ça a beaucoup tourné aux États-Unis. Il avait demandé que ce soit diffusé post-mortem, donc c'est-à-dire après sa mort, pour que ça ait plus d'impact.
Mm-hmm.
Et donc, il est décédé en 85, il a été incinéré, ses cendres ont été rapatriées en Normandie. Alors pourquoi en Normandie? Vous savez que Yul Brynner est né en Russie, il a fait ses primaires en Chine, et puis à un moment donné, ils ont dû quitter la Chine, et ils se sont orientés vers la France.
Mm-hmm.
Et donc, quand il est arrivé en France, il a posé le pied en Normandie, et à partir de ce moment-là, il est tombé fou amoureux de la Normandie. Après, il a passé sa jeunesse, de ses 11 ans à ses 20 ans à Paris. Et puis après, bon, il est passé à Londres et aux États-Unis, mener sa carrière qu'on connaît bien.
Mmh.
Mais donc, fou de Normandie, il avait demandé d'être enterré dans sa villa en Normandie qui se situe à Bonnebeau. Si vous prenez Deauville sur la côte, vous rentrez un peu dans les terres au niveau de l'Isère.
Et vous, je vous dis, à Bonnebeau, il y a une très bonne crêperie.
Oui, exact. Ouais. Et voilà que donc sa quatrième épouse, Cathy Lee, qui était une danseuse, hein, il a eu la chance d'avoir 4 épouses et une série de satellites, vous imaginez. Mais en tout cas, sa quatrième épouse décide à un moment donné de repartir aux États-Unis. Et donc elle décide de transférer ses cendres à Sainte-Geneviève-des-Bois à Paris.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que lorsqu'il est arrivé à Paris, donc vers ses 11 ans, il a intégré un orchestre de tziganes, il était la mascotte du groupe. Et donc tous ces gens qui faisaient partie de ce groupe qui étaient décédés étaient dans ce cimetière. Et finalement, ça ne s'est pas déroulé comme ça pour des questions administratives, ça a dérivé sur l'usée. Alors l'usée, il faut savoir que dans cette abbaye qui est plutôt bénédictine au départ, eh bien, il y avait à cette époque-là, de 78 à 2006, une communauté orthodoxe qui occupait les lieux.
Mmh.
Et dans cette communauté, tenez-vous bien, il y avait un Allemand qui s'appelait Matthias, qui était fonctionnaire à l'UNESCO la semaine et moi le week-end, qui connaissait très bien Brynner.
C'est un scénario de film, votre histoire.
Il connaissait bien Brynner depuis qu'il était gamin. Il l'avait retrouvé, notamment plus tard, parce que Yul Brynner avait travaillé aux Nations Unies. Il s'occupait de la condition des enfants réfugiés.
Uh-huh.
Il a écrit d'ailleurs lui-même un bouquin qui s'appelle Bring for the Children, concernant les enfants réfugiés.
Mm-hmm.
Et lui-même est passé à la pratique, puisqu'il a adopté 2 Vietnamiennes parmi ses enfants. Voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé, donc, pour des questions d'amitié et pour des questions d'orthodoxie, à l'usée, puisqu'il y avait cette communauté. Donc, on a créé ce cimetière, finalement, qui est un cimetière qui a été créé pour lui, qui n'est pas le cimetière d'origine. Et autour de Yul Brynner sont venus se joindre quelques autres tombes par la suite.
Je me suis demandé s'il parlait français, probablement, non ?
Oui, parfaitement. Ouais. Donc, on l'entend dans plusieurs films, Catelot, etc. Donc, on retrouve Yul Brynner, donc, en version originale, en version française. Et bien sûr, il parlait 11 langues, hein, donc il était très connu pour ça. Donc il maîtrisait le chinois, le russe, etc. Donc, et c'est pour ça notamment que pendant la guerre, il a travaillé pour une émission qui s'appelait Voice of America,
oui,
qui était une émission qui était destinée à soutenir les troupes sur le continent.
Oui, bien sûr. Hein,
sachant que Breton, au niveau français, participait également à ces émissions de radio.
Une émission extrêmement connue. Alors sa tombe, elle est comment? Elle est hollywoodienne, si j'ose dire, ou plutôt discrète?
Non, ça tombe, je dirais, plutôt à l'américaine. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous êtes au milieu des champs et des bois, si vous voulez. Et puis, alors, vous avez une petite pierre tombale, assez réduite, assez modeste, qui témoigne bien du personnage. Hein. C'est d'accord. Un peu sa volonté, c'était d'être enterré de la sorte. Mmh. Hein, donc, je sais qu'en France, on aime bien les grands marbres pour les grands hommes, mais ici, ce n'est absolument pas le cas. Donc, en fait, tout mon public, si vous voulez, anglo-saxon, et c'est-à-dire les Américains, les Anglais, etc., comprennent complètement la chose. Les Français ont un peu plus difficile avec ce genre de choses.
Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent se recueillir sur la tombe de Yul Brynner ?
Ah oui, le public que j'ai est assez, je dirais, assez disparate et assez amusant. J'ai d'abord les Tziganes, parce que Yul Brynner avait été nommé officiellement le roi des Tziganes. Alors, il y a un très beau passage d'ailleurs avec les Tziganes dans le testament d'Orphée de Cocteau, avec Charles Aznavour, François Sagan, etc. Et lui-même avait été nommé officiellement le roi des Tziganes, et donc ça fait partie du public. J'ai bien sûr les amateurs de cinéma, donc qui s'y connaissent évidemment à la virgule près au niveau des scénarios, etc. Et qui évidemment sont très amateurs de Yul Brynner. Les Américains aussi, parce que lorsqu'ils viennent en France, ils vont au Louvre, hein, ils vont voir la Tour Eiffel, puis après ils vont à Colville, sur les plages du débarquement.
Oui, bien sûr, avec des tombes comme ça, très sobres.
Voilà, ils viennent voir Yul Brynner et puis ils descendent sur le débarquement
d'accord,
du Sud.
D'accord, très bien.
J'ai les femmes, qui sont souvent des femmes un peu hystériques et passionnées.
Oui.
Et puis alors, j'ai également les motards. Hein. Je dis toujours, dans les motards, il y a toujours un grand chauve dans le groupe qui se prend pour Yul Brynner. Donc là, c'est plutôt un problème d'assimilation.
D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Marc-Olivier, de cette description.
Merci, au revoir.
Au revoir. Gavin, comment ça se passe pour visiter là-bas ?
Eh bien, on va aller visiter l'abbaye entre la saison de Pâques et fin septembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vous pouvez aussi réserver une visite guidée mardi et dimanche, toujours en saison.
Alors, je vous signale aussi qu'il y a un petit musée dans l'abbaye consacré à Yul Brynner. Bien sûr, on peut dormir dans le coin ou pas ?
Déjà, on peut dormir dans les gîtes de l'abbaye. Ça, c'est assez rigolo.
Ah bon ?
Des gîtes 4 étoiles, oui, avec piscine. Alors, en ce moment, c'est un peu plus limité. Mais vous êtes face au cœur de l'abbatiale. Donc, vraiment, vous êtes aux premières loges pour aller vous recueillir le matin à l'ombre du clocher sur la tombe de Yul Brynner. Sinon, vous pourrez aussi aller dormir dans un très, très beau château. Là, c'est à 22 km de l'abbaye. On est dans un grand parc de 5 hectares. Ça s'appelle le château de Bachet. C'est à Assez. Très précisément.
Assez, ça s'écrit A2SAY.
Exactement, avec des boiseries, des moulures, des meubles d'époque, c'est très très beau. Vous retrouvez toutes ces informations sur les réseaux sociaux et bien sûr sur europe1.fr.
Et comment s'appellent les habitants de Assez ? Réfléchissez.
Vous avez 5 minutes.
Ça s'appelle des ça suffit.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors dans cette émission, le samedi sur Europe 1, à partir de 15h, vous venez de l'entendre, on met en avant des sites où le savoir-faire c'est français s'est illustré. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on ignore souvent que ces lieux peuvent se visiter. Avec Gavin Clemente-Ruiz, notre chasseur de sites, on s'intéresse à la manière, aujourd'hui là, dont on fabrique le papier. Et pour ça, Gavin, on va à quel endroit ?
Eh bien, je vous emmène visiter la papeterie du Moulin du Verger. C'est à Puy-Moyen, à 7 kilomètres au sud d'Angoulême.
Puy-Moyen,
c'est beau, non ? Comment s'appellent les habitants ? Non, pardon. Ou là, pourquoi on va à Puy-Moyen ? C'est parce que là, l'eau est pure et le sol calcaire. C'est ce qui a permis l'exploitation de moulins pour l'industrie du papier. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est dans l'un des plus anciens moulins du département, encore en activité, que je vous convie.
Ah bon, très bien. Alors, on est en ligne avec le propriétaire du moulin, Jacques Bréjou. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour.
Alors, en m'intéressant à votre moulin, j'ai appris qu'on ne fabrique pas chez vous le papier à partir des arbres, comme je l'imaginais, mais avec du coton ou du lin. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Ah bien, on fabrique le papier comme on le fabriquait de façon traditionnelle avant la révolution industrielle, avec des vieux chiffons, et en général c'était des vieux chiffons de lin et de chanvre.
Ah,
ou des vieilles cordes, ou des vieux filets de pêche, des voiles de bateau, des choses comme ça.
Ça prenait un temps fou, non ?
Ça prenait le temps du temps de l'époque. Hein.
quand vous dites de l'époque, c'était quoi ?
Ça a commencé en Europe au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, et ça a continué jusqu'à la révolution industrielle d'une certaine façon, et après, évidemment, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ça a eu des bouleversements, et dans la fabrication des pâtes, dans l'apparition du coton en plus dans les matières premières, et puis petit à petit, la mécanisation de la fabrication
et
des
oui.
feuilles.
Mais à l'époque, on faisait tout à la main. Est-ce que du coup, pour respecter cette tradition, vous faites tout à la main ?
Alors, s'il ne s'agissait que de tout faire à la main, ça ne serait pas difficile. Ça, c'est faisable. Mais ce qui est très important, c'est aussi de faire exactement les mêmes types de pâtes et de travailler les chiffons de la même façon qu'on les travaillait avant. C'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on arrive à reproduire des papiers à peu près à l'identique.
Mais pourquoi vous faites ça? C'est parce que le papier est de meilleure qualité en le travaillant comme ça, comme à l'époque?
Le problème de qualité d'un papier, un bon papier, vous savez, c'est un bon papier journal, c'est un papier journal. Ce qui définit la qualité d'un papier, c'est qu'il est apte à être utilisé pour une chose particulière. Le papier, autrement, il n'existe pas. Hein. C'est ce qu'on en fait qui décide de sa qualité. Mmh. Mais là, les papiers qu'on fabrique sont destinés à réparer des livres, à réparer des gravures, pour des artistes qui veulent travailler dans des conditions identiques aux conditions anciennes.
Oui, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est du papier de haut de gamme, ce que vous me décrivez là, non?
Alors, évidemment, on se retrouve dans le luxe, forcément. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on industrialise une fabrication. Hein. Ce qui reste, c'est soit d'un côté les choses qui ne valent rien, en fin de compte, les emballages, les trucs simples, et puis de l'autre, le très très haut de gamme. C'est forcément du haut de gamme parce que la main d'œuvre coûte cher, c'est tout. Mais en fait, il n'est pas plus cher que le prix qu'il coûtait à son époque, si j'ose dire, par rapport à l'ensemble.
Moi, j'ai des souvenirs de photos ou de films où on voit des feuilles qui sèchent, comme sèche le linge. Ça existe encore?
Alors, ça oui, ah bah bien sûr. Bon, le séchoir à l'air, sans intervention de chaleur, sans un truc artificiel,
oui,
ça compte parce que ça sèche lentement. Vous savez, le papier, c'est quelque chose de vivant. Alors, ça sèche soit à cheval sur des cordes, soit suspendu avec des pinces, ça dépend des types de
oui, c'est ça. C'est ça l'image que j'ai. Mais la seule concession que vous accordez à la modernité, c'est quoi? C'est l'eau du robinet, à part ça
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part l'électricité, parce qu'il faut bien...
Aussi.
C'est pas toujours simple de faire, surtout quand on est artisan, c'est-à-dire qu'on n'est que deux ou trois dans un moulin, de faire fonctionner 24 pour faire les pâtes, avec une roue ou avec une turbine. Il y a une turbine, bon, mais le mieux, c'est quand même d'utiliser l'électricité. Et puis l'eau. Alors l'eau, comme par hasard, je prends l'eau du réseau, mais l'eau du réseau, c'est la même... Et la même origine que l'eau de la rivière. Ça vient d'une résurgence. Et
oui,
c'est
vous
pour
avez,
ça, d'ailleurs, qu'il y a des moulins.
Vous avez une rivière, évidemment, qui n'est pas loin.
Ah, on est sur le bord d'une rivière. Ouais. On a une chute d'eau. Il y a 7 mètres de chute. Et puis, il y a cette eau qui court,
évidemment,
là.
Évidemment.
Et puis, c'est pour ça que les moulins sont installés là. En fait, les moulins s'installaient parce qu'il y avait de quoi faire fonctionner les roues. Mmh. À cette époque-là, on n'avait pas besoin d'énormément d'eau pour fabriquer le papier. Mmh. On avait besoin de très peu.
D'accord. Bon, ben, écoutez, j'espère que cette description va plaire à ceux qui nous entendent là et qui passeront dans le coin pour venir vous dire bonjour et visiter ce lieu unique, bien sûr, qui fonctionne. Merci
il faut
beaucoup.
Leur dire, oui. Je vous en prie, il faut leur dire de téléphoner pour prendre rendez-vous.
Ça, d'accord, je leur dirai de téléphoner pour prendre rendez-vous. Ça s'appelle le Moulin du Verger. C'est à Puy-Moyen. C'est au sud d'Angoulême. Voilà, pour téléphoner. Le Moulin du Verger. Merci beaucoup, Jacques Bréjoux. Au revoir, bonne journée.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Si vous souhaitez apprendre à fabriquer du papier, parce qu'on peut. On peut faire ça sur place, hein, Gavitz.
Exactement.
Du papier pour les beaux livres. Hein. On va visiter, ça coûte combien la visite, quoi?
C'est 60 euros à diviser entre les différents participants. Donc franchement, ça peut être très vite
amorti.
C'est vivant, c'est passionnant. On l'a vu avec Jacques Bréjoux qui vous explique tout. Et bien sûr, il faut réserver, il faut l'appeler comme il l'a dit.
Alors, sur le thème du papier, là, pas loin, on n'est pas loin d'Angoulême. Qui dit Angoulême dit bande dessinée, dit donc papier. Est-ce que vous nous conseillez autre chose continuer?
J'ai tout ça. J'ai le musée du papier à Angoulême.
Ah oui.
Alors là, carrément sur le fleuve Charente, on a compris que l'eau était importante. C'est un bâtiment pont qui se servait de la force hydraulique. On retrouve les passerelles, il y a la roue à aube, il y a les cuves où l'on fabriquait la pâte à papier depuis le 18e siècle.
Ouais.
C'est là aussi ouvert tous les jours l'après-midi, sauf le lundi. Ça coûte 3 euros et c'est gratuit jusqu'à 18 ans.
Alors, je disais la BD Angoulême, mais profitez-en.
Ah bah juste en face du musée du papier, vous avez la cité de la BD. Là, vous allez, vous allez pouvoir découvrir des planches. Les fans d'Astérix vont adorer. Il y a aussi des inédits de Gottlieb. Il y a des dessins de Bretéché, Claire Bretéché. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et les fans vont vraiment passer un très bon moment à la cité de la BD d'Angoulême.
Si vous voulez en savoir plus grâce aux réseaux sociaux, ne vous gênez pas. Sinon, vous allez sur europe1.fr. C'est bien aussi. Chaque semaine, à ce moment d'émission, nous vous proposons d'entendre les confidences de personnalités que vous connaissez, confidences sur une ville, une région, un lieu quelconque qu'ils aiment particulièrement. Ça s'appelle la France de mon enfance. Alors aujourd'hui, Daniel Moreau a rencontré l'un des écrivains les plus lus dans le monde, Guillaume Musso.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Daniel.
Pouvez-vous nous décrire alors la jolie petite ville d'Antibes où vous avez grandi ?
Antibes, c'est la deuxième ou troisième plus grande ville du département, mais elle a su garder cette image effectivement de petite ville singulière, paisible. Moi, effectivement, lorsqu'on me demande où tu habites, j'ai toujours le réflexe de dire voilà, ma véritable maison, c'est Antibes. Pour moi, c'est une lumière, comme un petit peu la Méditerranée, une ouverture sur la mer et le sentiment finalement de tout le temps pouvoir être en partance vers ailleurs. C'est pas une ville dans laquelle je me sens prisonnière, à la fois de par la mer, de par la culture aussi. C'est une ville qui a toujours inspiré les artistes de Picasso en passant par Nicolas de Staël, les écrivains américains dans les années 20. C'est une ville liée aux images, aux sensations, ce que je retrouve beaucoup moins effectivement à Paris, où j'ai tout le temps l'impression d'être plutôt enfermé.
Et quand le petit Guillaume s'échappait comme ça tout seul, alors il allait sur les remparts, c'était quoi les promenades favorites ?
Oui, il y a les remparts d'Antibes sont importants pour moi. Antibes, en fait, c'est une ancienne ville fortifiée et les remparts ont été gardés et donc vous pouvez comme ça vous balader le long de la mer en passant par ces remparts. Le matin, quand j'allais au lycée à Mobilette, je passais toujours devant à la fois le ce qu'on appelle le château Grimaldi qui est devenu le musée Picasso, mais ce qui me fascinait, c'était l'ancienne demeure de Nicolas de Staël, le grand peintre d'origine russe, qui s'était effectivement défenestré depuis cette maison. Et je trouvais ça à la fois fascinant, inquiétant, mystérieux. Et finalement, j'ai commencé à aimer la peinture de Nicolas de Staël en entrant par sa biographie et par cette fin de vie que je trouvais terrible.
Alors vous connaissez tous les recoins de cette ville, est-ce que vous pourriez nous conseiller comme ça un ou deux lieux un petit peu méconnus pour sortir des sentiers battus si vous allez à Antibes ?
Il y a un lieu qui est vraiment sublime à faire à pied, qui a bien été aménagé ces dernières années, qui était dangereux avant, qui s'appelle en fait le sentier Tire-Poil. Alors Tire-Poil, pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y a pas mal de vent et où les poils des bras se dressent effectivement, donc c'est un sentier du littoral qui fait effectivement le tour du cap d'Antibes et où vous avez, vous avez une vue, vous pouvez marcher, vous pouvez y aller avec des enfants, il y a un côté sauvage, il y a un côté, en fait, vous avez l'impression, vous sentez que vous êtes en Méditerranée, mais il y a aussi quelques moments où vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en Bretagne. En tout cas, il y a un côté sauvage et escarpé des côtes qui est tout à fait singulier et lié à ce type d'endroit. Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle effectivement la Villa Hélène Rock et qui a une roseraie incroyable qui est toujours au Cap. C'est une villa qui avait été construite effectivement au 19e siècle par un riche homme d'affaires qui voulait en faire cadeau à la femme qu'il aimait. Et le temps que les travaux s'achèvent, la dame l'avait quittée. Donc il a revendu après cette maison, elle appartient aujourd'hui à la ville, elle a une roseraie absolument incroyable et une vue qui est pour moi l'une des plus belles des Alpes-Maritimes.
Merci, nous avons fait ce petit voyage à Antibes. Et puis alors, votre nouveau roman, comme la plupart de vos romans, on peut appeler ça des romans tire-poil, c'est-à-dire que les poils se dressent de plaisir, de frissons, parce qu'il y a plein d'émotions quand on lit vos livres.
Et il y a une petite incursion effectivement à Antibes aussi, comme un clin d'œil amical à ma cité préférée.
Donc ça s'appelle L'Inconnu de la Seine. On visite surtout Paris
ouais,
pour une fois. Ouais. Et voilà, l'intrigue, on ne peut pas la lâcher comme d'habitude. Donc je vous conseille ce livre, le nouveau roman de Guillaume Musso, très attendu, L'Inconnu de la Seine. Merci Guillaume.
Merci à vous.
L'Inconnu de la Seine, c'est le fleuve. on retrouve un cadavre et, dont on croit que cette personne a une identité, mais ce n'est pas la bonne. Je ne vous en dis pas plus.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Pour cette dernière partie de l'émission, comme on le fait désormais à chaque fois, tous les samedis, on prend l'air. Aujourd'hui avec Gavin Clemente Ruiz, c'est un garçon qui ne fait jamais de sport. Non, en fait, c'est pas vrai. Vous faites du sport. On met des bonnes chaussures de marche. Ça, c'est le point de départ. Pour grimper dans la montagne, mais rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. Alors, plus précisément, on va dans les Hautes-Pyrénées. Non, c'est une vraie aventure. Hein. Alors, où exactement et on y fait quoi, Gavin ?
C'est encore mal aux cuisses d'être monté dans les Hautes-Pyrénées. On va grimper dans la vallée de l'Espone. C'est à 14 km au sud de Bagnères-de-Bigorre.
Je suppose que ce n'est pas uniquement pour la promenade. On va faire quelque chose, exercer une activité.
Exactement, William. Je vous propose de partir à la rencontre de Yann et Cédric. Qui sont Yann et Cédric ? Ce sont deux bergers très sympathiques qui permettent, le temps d'une rencontre, eh bien, de découvrir la vie des bergers. C'est un peu voyage en terre inconnue, comme voit à la télévision.
Immersion, quoi.
Immersion totale. C'est à 1000 mètres d'altitude. On est face au pic de Midi. Et grâce à Yann et Cédric, on peut vivre en immersion la vie de berger.
Alors comment ça se passe si on veut rester quelques heures ou même une journée, c'est-à-dire journée et nuit ?
C'est ça. Eh bien, Yann et Cédric ont créé Vie d'Estive.
Estive.
C'est un pâturage d'été en montagne et c'est aussi le nom de leur ferme récréative, j'aime bien le terme, ferme récréative, pour laquelle ils proposent eh bien, plusieurs formules découvertes. Alors, il y a plusieurs choix. Soit ça dure un peu plus de 2 heures, on passe de bergerie en bergerie, on assiste...
On ne reste pas dans celle de Cédric et...
Non, ils nous font vraiment découvrir...
Il y a un parcours, quoi.
Et c'est exactement ça. On découvre avec eux leur panorama, ce qu'ils voient tous les jours. On assiste au tété et aux soins des agneaux aussi. On participe et on déguste aussi à la fin quand même quelques petits produits locaux. Il y a aussi une autre option, là ça dure un tout petit peu plus longtemps, ça dure une journée, on est en immersion totale, on est avec Yann et Cédric et on part retrouver le troupeau.
Ils le font, c'est leur boulot. Quoi.
On les suit en fait, on suit leur quotidien et on va découvrir la vie de montagne avec eux, on sera à leur côté, on va marcher avec eux et le soir on dort dans la cabane avec une bonne petite grillade quand même au passage.
Quand on dit on dort dans la cabane, c'est assez... sommaire, non ?
C'est assez simple, oui.
Austère.
Mais austère, non, c'est simple, c'est la vie dans la montagne.
Voilà, ça, c'est une véritable expérience de plein air, comme on vous en propose une chaque semaine dans cette émission, et il n'y a pas de doute. Alors, on a Yann de la vie d'Estive qui est en ligne avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour à tous les deux, bonjour.
Et vous le faites exprès, le coup de la cloche, là, ou pas, là ?
Ah non, là je suis assis à côté de la bergerie et au milieu d'une prairie et effectivement, je ne savais pas qu'on entendait la cloche, mais il y a une brebis à côté de moi. Avec
non, je me suis dit, tiens, il nous fait la ambiance, tout. Non, c'est naturel, quoi, c'est toujours comme ça.
Ah ben oui, moi c'est mon métier aussi, et puis ça fait partie de la rencontre, j'entendais votre présentation.
Oui.
C'est vrai que c'est une découverte et c'est une rencontre surtout, ce qu'on propose.
C'est ça. Voilà. Combien de bêtes compte votre troupeau
Nous, à ce jour, on a à peu près 200 brebis. On compte les brebis. En plus, s'ajoutent les agneaux, les agnelles et les béliers. Mais on compte les brebis. Et c'est des brebis d'une race locale qui s'appelle Or et Campan, comme la vallée d'Or, Arro, Saint-Lary. Et la vallée de Campan, dans laquelle nous, on se trouve, Bagnères-de-Bigorre, Campan, etc.
Alors, vous, par exemple, vous êtes berger depuis combien d'années ? Vous avez une formation pour ça ? C'est là que vous êtes heureux ? Il n'est pas question d'aller vivre ailleurs, je suppose.
Alors, pour l'instant, non. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on a racheté une ferme à des voisines. C'est un petit peu un concours de circonstances qui nous a amené à reprendre cette ferme et à découvrir ce métier d'éleveur berger dans les Pyrénées centrales.
D'accord. Est-ce que c'est facile pour un touriste ? Parce que c'est ce qu'on va proposer à ceux qui nous écoutent. Il y en a quelques-uns qui vont se dire, moi, je vais y aller, je vais voir à quoi ça ressemble. C'est facile pour un touriste, enfin quelqu'un qui n'a jamais fait ça, de vous suivre ? Parce que ça grimpe pas mal, il faut marcher assez longtemps, non ?
Pas forcément, parce qu'il y a des activités adaptées un petit peu à tout le monde. Nous, on a une ferme, mais peut-être pas au sens où on l'entend habituellement. En fait, c'est un ensemble de prairies naturelles, très pentues, à 1000 mètres d'altitude, là, qui surplombe toute la vallée de Campan. C'est un site assez exceptionnel. Mmh. Et sur chaque prairie, il y a une grange centenaire. La grange étant, en fait, un silo à foin où on va mettre le foin à l'abri l'été, en attendant l'hiver, et où on va mettre les bêtes à l'abri l'hiver et les nourrir. Et donc, on a aménagé une petite balade, par exemple, pour les gens qui ne sont pas randonneurs, où on va aller comme ça, ensemble, de bergerie en bergerie, avec les chiens de travail. On va rencontrer.
Qu'est-ce que c'est qu'un chien de travail? C'est les chiens de berger le...
Alors oui, on utilise deux types de chiens. Moi, j'utilise les border collies, donc c'est des chiens assez vifs, assez rapides, qui se dressent. Et le travail, basiquement, on va dire, qui consiste à deux choses. Rassembler le troupeau et ensuite le déplacer dans la direction qui va m'intéresser. J'ai un autre type de chien qui a un gabarit beaucoup plus gros, qui sont des patous, ou montagnes des Pyrénées, des gros chiens blancs.
Des patous.
Eux, qui sont des chiens de protection.
Contre quel prédateur?
Alors, nous, aujourd'hui, c'est essentiellement les chiens. Les chiens des promeneurs qui, en montagne, ne sont pas tenus en laisse. Ah, on est sur un massif qui est magnifique, qui est facile d'accès, où il y a beaucoup de randonneurs, de promeneurs.
D'accord.
Et du coup, c'est vrai qu'on est obligé un petit peu de protéger le troupeau par rapport à ça. Ça peut servir aussi contre les ours. Dans les Pyrénées, on a une soixantaine d'ours qui sont présents. Et puis sur,
qui ont été réintroduits pour certains, d'ailleurs. Oui.
Alors, certains ont été réintroduits, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de naissances qui se font aujourd'hui dans les Pyrénées, et la population augmente petit à petit. Oui.
D'accord. Et vos clients, là, vous leur demandez de participer à la vie du berger, quoi?
Alors oui, l'idée c'est qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils découvrent ça, et le but c'est que ce soit participatif. Donc par exemple, sur les balades familiales, accessibles à tout le monde, on va toujours passer en bergerie, les enfants pourront nourrir les agneaux, on verra la différence qu'il y a entre de la paille et
d'accord.
du foin,
alors,
les différents types de céréales, etc.
Je m'inquiétais tout à l'heure, Yann, pour savoir si c'était spartiate d'aller dormir dans les cabanes. Alors c'est pas un 5 étoiles, mais dites-moi, entre les deux, finalement, ça va quoi, il y a un matelas.
On a rénové une maison-grange traditionnelle, on appelle ça une ournaire en patois dans nos vallées.
Ouais.
Et donc, on accueille les gens de façon assez confortable, au goût et au confort du jour. Donc, de ce côté-là, ça va. Ouais,
ça va. Bon, ben alors, ça va, ça nous convient.
Il est rassuré,
oui. J'y vais ou j'y vais pas? Parce que les godasses, j'ai. Mais si c'est pour m'asseoir et dormir sur des pierres, non. Alors, ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Yann. Bonne chance.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Voilà, à bientôt dans les Pyrénées.
Oui, merci beaucoup. Alors, Gavin, combien ça coûte tout ça?
Bon, je vous ai réservé la nuitée, hein, quand même. Alors, pour la visite la plus simple, c'est 7 euros pour les enfants et 9 euros pour les adultes. C'est vraiment très abordable. Et 14,50 si on inclut le repas. Et pour la sortie la plus longue, quand il y a la nuitée, c'est 25 euros pour les enfants et 69 euros par adulte, repas et nuit inclus.
Bah, c'est moins cher qu'une nuit d'hôtel.
Carrément,
hein, mais en plus, vous avez
l'expérience
et les activités.
De vivre avec
et c'est plus confortable qu'on pourrait l'imaginer. Si vous voulez en savoir plus, vous avez vos réseaux sociaux favoris ou alors le nôtre, c'est-à-dire europe1.fr. Alors, on termine maintenant, Gavin, s'il vous plaît, avec un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui.
Alors, en effet, on est allé voir la Fabuloserie. C'est une maison-musée qui renferme des œuvres d'artistes non professionnels. C'est en Bourgogne, à Dissy. Puis, nous sommes allés visiter l'abbaye royale à Saint-Michel de Bois-Aubry pour découvrir entre autres la tombe de Yul Brynner, le célèbre acteur hollywoodien. Nous avons aussi découvert comment faire du papier au Moulin du Verger, où l'on fabrique tout cela près d'Angoulême.
Ouais.
Cela se visite. Et pour finir, on a été faire une petite balade avec Yann de Vide et Steve dans les Pyrénées, sur les traces des bergers, où on peut également dormir sur
alors,
place.
Pour terminer, nous le faisons à chaque fois, quand il y a matière, ben là oui, c'est... Alors, on parlait d'Angoulême, là c'est une BD, alors mais celle-là est assez originale.
Oui, c'est la nouvelle BD d'Étienne Davodeau, les fans adorent, ça s'appelle Le droit du sol, journal d'un vertige, c'est chez Futuropolis, une très belle maison d'édition de BD. Cette BD, c'est son parcours à pied entre deux points. Alors, il est parti des grottes...
Ben, c'est, là encore... Hein.
Encore une fois, on marche.
Oui, en France, le tout, c'est de découvrir la France que vous ne connaissez pas.
Sous une autre formule. Alors, il est parti, Étienne Davodeau, entre les grottes de Pechmerle dans le Lot jusqu'à Bure dans la Meuse. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à faire ce parcours de près de 800 km entre les peintures rupestres magnifiques laissées par nos ancêtres à Pechmerle jusqu'à ce site à Bure qui est un site de déchets nucléaires enfoui. Et lui, à travers ce récit, il essaye de nous faire réfléchir et il se demande qu'est-ce que nous, on va laisser à nos enfants à part ces déchets
enfouis. C'est la grande diagonale. Là,
exactement.
Entre la grotte d'un côté et les déchets nucléaires de l'autre.
Des beautés aux déchets. Qu'est-ce qu'on va laisser
à
nos
enfants dessin.
Avec le dessin. Et on voit son parcours, on voit tout ce qu'il interroge, toutes les personnes qu'il rencontre, qui nourrissent son discours et qui nourrissent son dessin. C'est vraiment hyper intelligent. C'est la BD de Étienne Davodeau. Ça s'intitule Le droit du sol, journal d'un vertige chez Futuropolis.
L'émission est maintenant terminée. Merci à Maryse Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau et Gavin qui les interviewent. Donc, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites hors des sentiers touristiques habituels. Bon après-midi sur Europe 1.